Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui.
Et bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous écoutez la matinale de Barthas. On est samedi 8 avril. Ce matin, en l'absence de Ben, je reprends le contrôle et je vous ai concocté un bon petit programme. Comme chaque année, le Festival Vue du Québec lance un peu le coup d'envoi et le retour de tous les festivals sur le territoire. Et justement, dans la première partie de cette matinale, j'ai avec moi deux invités qui nous parleront du troisième Gestival, qui débute aujourd'hui à Florac. Et sur un thème précis cette année, chez Gestifam. Dans la deuxième partie, je vous passerai un petit reportage fait à Saint-Chély-d'Apché au lycée hôtelier il y a quelques semaines. En effet, France Travail, anciennement Pôle emploi, y a expérimenté une nouvelle manière de recruter dans le milieu hôtelier. Un concours de cuisine suivi d'une formation ouverte à tous les chercheurs d'emploi motivés par le milieu hôtelier. Pour parler de ce troisième Gestival, j'ai avec moi en studio Stéphanie Rieux de l'Atelier Populaire qui organise le Gestival et Floriane Durion, la première gesticulante de ce festival. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Moi je suis arrivé à Florac l'an dernier à peu près à la même période et j'étais un peu perdu, j'ai pas du tout vu passer le Gestival l'an dernier et c'est un concept encore un peu flou pour moi. Du coup, est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots?
C'est le troisième Gestival qu'on organise. Du coup, un Gestival, c'est un festival de conférences gesticulées. Et une conférence de gesticulée, c'est une prise de parole publique. C'est à partir d'un récit de vie, venir raconter ce qu'on a compris du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que on vient livrer une analyse systémique et politique de notre expérience, soit au travail, soit une expérience de vie. Et on vient surtout déconstruire les rapports de domination, les rendre visibles. Voilà, c'est un format qui n'est pas un spectacle, qui n'est pas tout à fait une conférence et pas tout à fait un spectacle, c'est un mélange des deux. On mélange du savoir d'expérience, ce que nous on appelle du savoir chaud, avec du savoir plus académique, ce qu'on appelle du savoir froid, et tout ça, ça donne une conférence gesticulée.
Et du coup, les personnes qui font ces conférences, on les appelle les gesticulants et gesticulantes. Ouais. Comment on devient gesticulant et gesticulante?
Eh bien, on fait une formation. On contacte une association d'éducation populaire qui propose des formations à la conférence gesticulée. Moi, j'ai été formée par l'Ardeur, qui est une association qui se situe en Bretagne. Et on fait une formation qui dure 4 fois une semaine sur 6 mois. Et on apprend à apprendre. En fait, c'est comme un gros travail de recherche sur une thématique qui nous est proche, quoi. Donc, à partir de notre expérience, on vient construire tout un tas de savoirs qu'ensuite on vient présenter devant un public.
On a une idée des chiffres du nombre de nouvelles conférences gesticulées qui arrivent en France chaque année?
Chaque année, je ne peux pas te dire. Là, on est à 700 confs montées. En tout cas, on a une association nationale qui a un site internet qui s'appelle conférencesgesticulées.net. qui recense un petit peu tous les gens qui se sont formés à la conf et qui les font tourner. Il y en a environ 700 qui sont faites. Il n'y en a pas 700 qui tournent, mais il y en a environ 700. Il doit y en avoir.
Je pense qu'il y en a peut-être 200, non, qui tournent.
Oui, il y en a 200-250 qui tournent, mais par année, je ne sais pas.
Ah ouais, par année.
Ça doit faire, une centaine par an qui sort, quoi.
Et en France, on a beaucoup de festivals comme ça, de conférences?
De gestivals, ouais, il y en a pas mal. En fait, ça commence un peu à émerger un peu partout en France. Et puis du coup, comme on est un peu fédéré sur un réseau national, forcément, il y a du lien qui se fait. Forcément, c'est une forme qui commence à être pas mal investie, quoi.
Là, ça a lieu à L'Encrier, dans un café associatif. Du coup, c'est un peu le type d'endroit où ça se passe à chaque fois?
Oui, ça peut aussi être dans des théâtres quand c'est des gesticulants qui ont un peu de renommée et qui a besoin de place pour faire venir beaucoup de monde. Ça peut être dans des MJC, ça peut être dans des festivals. Là, cette année, il y a un groupe de gesticulants, gesticulantes qui ont une cour à Aurillac. Enfin voilà, les occasions font les larrons, je dirais.
Comment le festival du coup a été perçu ici à Florac les années passées? Il y a eu beaucoup de monde?
Alors la première année, il y a eu du monde de manière raisonnable. En fait, comme il y avait des gesticulants locaux, ça a fait venir du monde. Et puis nous, on a pas mal discuté de tout ça dans les réseaux. Du coup, il y avait entre 30 et 40 personnes tous les soirs. L'année dernière, ça a un peu explosé en termes de fréquentation, surtout sur une conf. Moi, je savais que ça allait faire venir du monde, la conf de Jean-Baptiste Cambier et Anthony Pouliquen, qui, qui parle d'écologie et de lutte des classes. Là, il y a eu un gros pic de fréquentation. On est monté, je pense, à 90 personnes, ce qui était un peu...
Ça devient serré, c'était à l'Encrier aussi.
C'était, ouais. Et cette année, je pense que les gens, ils sont habitués maintenant à ce format. Ceux qui ne connaissaient pas, ils ont découvert et je pense que ça les a accrochés. Et du coup, on commence à avoir un public un peu d'habitué. Et puis en plus, la programmation cette année, de ce que j'entends là, moi, autour de moi, c'est que y a des gens qui ne sont pas habitués, mais que auxquels les thématiques parlent. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont déjà politisés, mais du coup, ça va les inciter à venir et peut-être à... Voilà...
Faut venir un peu en avance pour avoir une place pour s'asseoir.
Oui, alors après, on n'est pas sûr. Je pense que si, ça démarre à 20h. Il faut venir, oui, entre 19h30 et 20h. Après, ça va, c'est pas la cohue. Enfin, faut pas s'affoler non plus. On a des chaises de réserve au cas où. Enfin, voilà.
Du coup, c'est comment ça s'appelle ? C'est l'atelier populaire qui organise ça. Vous êtes combien à l'atelier populaire ?
On n'est pas très nombreux. En fait, c'est une asso qu'on avait montée il y a longtemps. Moi, je suis éduc et quand je suis sortie de formation avec quelques collègues éduc, on s'est dit qu'il y avait besoin un peu de, d'agiter un peu le bocal sur des problématiques liées au social et au médico-social. On avait monté cette asso où on faisait des soirées une fois par mois sur des thématiques liées au médico-social. Et il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait 40-60 personnes qui venaient de toute la Lozère parler. En fait, c'est un peu de l'analyse des pratiques sauvages. C'est-à-dire que les gens, ils venaient raconter ce qui allait pas dans leur boulot. Ils déversaient tout là. Et voilà, après, ils repartaient. On savait pas ce qu'ils en faisaient, mais en tout cas, voilà. Et puis tout ça, ça s'est arrêté au bout de quelques années. Et moi, quand je suis partie me former à la conf gesticulée il y a 2 ans, je me suis dit, cette asso, elle existe, on va la remettre en œuvre pour pouvoir proposer du gestival, faire tourner des confs, proposer de l'accompagnement aussi. On a une formation anecdote à la fin de la semaine, donc une initiation à la conférence gesticulée. On a 8 stagiaires qui vont se former pendant 2 jours. Il y aura une sortie de... Nous, on appelle ça des sorties de chantier. Donc, le passage public, en fait, à la fin des 2 jours, à l'Encrier, à 16h, dimanche 14. Voilà, on s'est dit que c'était un outil qui pouvait permettre ça. D'accompagner des gens aussi à cet outil politique qui est un outil hyper puissant et qui est un outil d'éducation populaire et d'essayer de le faire un peu exister et vivre. Voilà, mais on n'est pas très nombreux, hein. On est 2-3 vraiment actifs. Après, il y a plein de copains bénévoles qui filent des coups de main, mais pour l'instant, c'est une petite asso, quoi.
Et du coup, comment sont choisis les thèmes ? Comment sont choisis les gesticulants et gesticulantes chaque année ?
Alors, la première année, c'était les gens avec qui moi je me suis formée, donc c'était ma promo, on va dire. Donc, c'était l'année dernière. En fait, c'est souvent moi qui choisis. C'est quasi tout le temps des confs que j'ai déjà vus et que j'ai aimés. Et aussi des thématiques où je trouve que c'est important de pouvoir les traiter localement, mais au-delà aussi des thématiques hyper... où je trouve qu'il y a matière à discuter autour sur des sujets un peu actuels ou sur des sujets que les gens ne vont pas décrypter forcément d'une manière... De la même manière qu'un conférencier gesticulant va le faire, quoi.
Cette année, du coup, le nom, c'est Gestifemmes, c'est aussi le thème, parce que toutes les gesticulantes sont des femmes.
Ouais.
D'où c'est venu cette envie ?
Y a autant de confs d'hommes que de femmes qui tournent, mais on se rend compte, elles sont en ligne, hein, la plupart, elles sont sur YouTube, et on se rend compte, quand on regarde un peu plus finement, que les confs de mecs, elles sont beaucoup plus regardées que les confs de femmes. Il y a une histoire de légitimité à prendre la parole dans l'espace public, et puis quand on est un homme, dans notre société patriarcale, on a quand même plus d'écoute que quand on est une nana. Et du coup, on s'est dit qu'on allait un petit peu contrebalancer ça, et qu'on allait faire de la prise de parole féminine cette année, mais sur des sujets qui sont, qui concernent évidemment tout le monde, quoi.
On reparlera des sujets un tout petit peu plus tard. Toi, du coup, Floriane, tu vas passer en première dans ce festival. Tu es la première gesticulante. C'est du coup ce soir, lundi 8 avril à 20h, avec une gesticulation qui se nomme « Ces choses-là, on n'en parle pas, on oublie ». On va parler du fond juste après, mais du coup, niveau conférence gesticulée, toi, d'où c'est venu ?
Alors moi, je suis comédienne de métier. La scène fait partie de ma vie depuis bien longtemps. La conférence gesticulée, elle est venue de mon parcours de vie. Pendant un moment, moi, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette expérience de vie. Et je ne savais pas trop quoi. Et puis, j'avais vu Franck Lepage, qui est donc le premier à avoir... fait une conférence gesticulée. Moi, je l'avais vu dans le cadre d'un milieu militant.
Et j'avais trouvé ça génial, ce format. Je l'avais trouvé vraiment, vraiment fun. Et c'est à l'écoute d'un podcast qui s'appelle Ou peut-être une nuit, qui est 6 heures de podcast sur le thème de l'inceste, que tout d'un coup, j'ai eu la ligne politique. Et que je me suis dit, OK, en fait, là, ce sujet-là, je peux donc l'amener sur le terrain du politique et du systémique. Et voilà, c'est ça qui je me suis dit, OK, bon, bah donc, conférence gesticulée, ça marche.
Et du coup, c'est ta première conférence, celle que tu vas faire ce soir ?
Ouais, ouais, c'est la première fois que je monte ce format-là.
Et ça demande quoi d'écrire une conférence comme celle-là ? Est-ce que ça demande de la colère, beaucoup d'implications personnelles ?
Oh, ça demande à s'être rendu compte que ce qui nous a impacté dans notre intime se situe aussi sur le plan du collectif et que nous sommes à l'intérieur d'un système et voilà. Ça demande de construire une pensée, de prendre du recul. Mais on est accompagné, on est hyper accompagné dans les formations. Alors, ce qui est génial, c'est que les conférences gesticulées, on les tourne individuellement, on est seul en scène. En revanche, la construction, elle se fait collectivement. Et ce qu'on peut observer, ce qui est très fort, on vient tous dénoncer des liens de domination qui nous ont impactés dans notre parcours de vie. Mais ce qui est très fort, c'est de voir à quel point les mécanismes sont toujours les mêmes. Et c'est très étonnant de voir ça quand moi j'arrive avec ma thématique qui est vraiment au cœur de l'intime et que je suis face à d'autres qui sont sur le monde du travail, sur le milieu des ingénieurs agricoles. De prime abord, je me dis pas qu'on va avoir énormément de points communs et en fait c'est assez dingue. C'est-à-dire que bah voilà, puis moi je le sais aussi à travers ma conf, régulièrement j'ai des gens qui viennent me dire eh ben en fait moi je vois que c'est les mêmes choses qui se sont jouées, le contexte n'est pas le même, mais finalement la domination m'a impacté et le mode opératoire est toujours le même.
On va pas tourner autour du pot beaucoup plus longtemps. Ta conférence, du coup, c'est un peu l'exemple parfait de l'intention derrière ces gesticulations, c'est-à-dire le besoin de briser aussi un tabou et tout ce qui se cache, de remettre un sujet au milieu de la table. Le sujet que tu traites est celui de l'inceste et son rapport à la société patriarcale aussi.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce thème ?
Oui, bien sûr. L'inceste, aujourd'hui, on le sait, concerne plus de 10% de la population. Alors 10%, quand je te dis ça, c'est 10% de la population qui a déclaré. Donc, selon les associations de victimes, on serait plus autour de 15%. Moi, pour rencontrer de plus en plus de personnel hospitalier en psychiatrie, j'ai envie de dire qu'on doit dépasser très largement ce chiffre de 15%. Parce que j'entends beaucoup qu'en psychiatrie, 100% des malades ont été abusés dans leur enfance. C'est un sujet de société absolument majeur. On commence, alors on a l'impression que ça y est, la parole est libérée. Et effectivement, il y a des choses qui se sont passées. MeToo est passé par là. MeToo inceste existe. Mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est au tout début de la vague et que c'est un tsunami qui nous arrive dessus et que il me semble que c'est important de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce schéma de domination.
C'est surtout que là, une parole se libère, mais pas forcément sur ce côté incestueux. Elle se libère sur plein d'autres sujets petit à petit, étage par étage. Et un jour, on va arriver peut-être sur ce sujet. Il faut qu'on arrive sur ce sujet, mais c'est assez lent. Toi, pourquoi avoir choisi ce sujet-là ?
Eh bien, parce que moi, j'ai été victime d'inceste dans mon enfance. Et puis que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc au départ, de façon individuelle, hein, j'ai fait 10 années de psychanalyse. Et puis, bon, voilà, j'ai avancé, j'ai continué à avancer, tout ça. Moi, je suis assez militante dans ma vie. Mais c'est un sujet de l'intime, c'est un sujet qui est très peu politisé, l'inceste. Et ça a commencé à se faire avec des gens, notamment une chercheuse anthropologue qui s'appelle Dorothée Ducy, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste ». dans lequel moi j'ai trouvé en fait ma thématique, à savoir l'inceste qui est un outil de domination pour le patriarcat qui permet d'entraîner la masse à toutes les autres formes de domination. À partir du moment où l'être en devenir, quel enfant, a été brisé, parce que l'inceste c'est ça, l'inceste c'est un meurtre psychique, une mise à mort psychique. À partir du moment où l'être a été brisé dans ce qu'il a de plus intime, après c'est l'autoroute. Après, les dominations tout au cours de la vie peuvent se déchaîner et les dominants ont devant eux des êtres déjà extrêmement fragilisés. Et on le sait et on le voit, les victimes d'inceste sont des gens qui sont majoritairement plus exposés aux conduites à risque, aux addictions, qui sont majoritairement plus exposés aux violences conjugales, aux suicides. Enfin bref, on voit qu'il y a quelque chose de la structure égotique qui a été brisée et qui sert la société patriarcale. Voilà. Et c'est aussi, il faut le dire, l'inceste, c'est quand même une violence sexuelle sexiste. C'est-à-dire que les chiffres parlent. Moi, souvent, on me dit « Oui, mais il y a aussi des femmes qui agressent. » Oui. Bien sûr, évidemment, il y a des exemples. Dans les chiffres, les agresseurs sont à 96% des hommes et les victimes, 78% des femmes.
C'est un chiffre que j'avais, 80% d'agresseurs hommes. C'est d'après l'Institut national des études démographiques en juin 2023. Donc, c'est très, très récent comme chiffre.
Ouais, c'est énorme en fait, c'est énorme et ça dit quelque chose. Donc après on peut se dire oui, mais bien sûr on est dans une société où il y a le contre-exemple confirme la règle. Oui, bien sûr, mais en fait si on se pose froidement devant les chiffres, on peut parler de violences sexuelles et sexistes.
Un sujet comme ça, comment toi tu le prépares ? Tu fais des lectures, tu en parles à des gens, tu recueilles des témoignages, tu fais beaucoup sur toi, sur ton propre vécu ?
Ouais, je pars de mon vécu. Après, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts. Donc petit à petit, je vais construire ma pensée. Mais comme je te le disais tout à l'heure, je construis ma pensée avec d'autres. Et ce qu'on va se renvoyer de nos expériences de vie, de nos récits de dominés, ça va servir, ça va continuer à construire, à m'ancrer en fait dans ma pensée politique. Et donc voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, et petit à petit les choses se sont éclairées. Je suis pas allée particulièrement chercher des témoignages, même si quand t'es victime d'inceste et que tu parles, il se trouve que autour de toi en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément d'autres victimes et qu'en fait les gens commencent à parler. Des témoignages, ça a été depuis que j'ai commencé à dire ce qui m'était arrivé. J'ai pas attendu la conférence gesticulée pour avoir des témoignages, bien sûr, qui m'ont servi. Ce à quoi ça m'a servi, c'est que c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, chaque fois que j'ai raconté mon histoire face à d'autres victimes, la phrase immédiate qui arrive, c'est « Tain, c'est dingue ». Moi, c'était exactement pareil. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle un système.
Sur le flyer, avec l'annonce du spectacle, du coup, on lit « Elle a convié ses vieilles copines héroïnes des blockbusters, une armée de résistantes parfaites ». C'est-à-dire, est-ce qu'on aura la surprise sur place ou,
Non, je peux vous le donner. C'est qu'en fait, dans la conférence gesticulée, il y a la possibilité d'avoir un fil rouge, quelque chose qu'on amène qui est en dehors de notre sujet, qui est un hobby, une passion, qu'on a un truc qui nous porte dans la vie. Et moi, il se trouve que je suis fan des blockbusters et particulièrement de ceux qui mettent en scène des héroïnes. Et que quand j'ai réfléchi à ce fil rouge, tout d'un coup, elles m'ont paru assez fortiche pour venir avec moi sur le plateau. Ce qui fait que, moi, je suis actrice. J'avais aussi envie de m'amuser avec mon métier. Et du coup, je rejoue des scènes de films de ces héroïnes avec des répliques qui m'ont portée quand j'étais môme, quand j'étais adolescente, que j'ai adoré refaire devant mon miroir, dans ma salle de bain. c'est l'occasion de me donner à dire ces répliques que j'adore, moi, qui me mettent vraiment debout.
C'est des répliques très cultes du coup, où tu annonces dans quel personnage tu rentres ou...
Ouais, bien sûr. Ouais, je parle des films, je raconte les films. Je raconte les films et puis par moment, je rejoue des scènes. Et voilà, il y a quelques répliques vraiment cultes.
Ok, ok. Ça dure combien de temps du coup cette conférence?
Ça dure à peu près entre 1h45 et 2h.
Ok. Du coup, on te retrouve ce soir à 20h à l'Encrier.
Avec
pour
plaisir.
Pour cette conférence qui s'appelle « Ces choses-là, on n'en parle pas, on oublie ». On va parler un peu des autres conférences qui vont arriver. En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. C'est bien ça? Est-ce que tu peux me les annoncer un peu?
Alors, demain soir à 20h, on aura Caroline Courty qui vient nous parler du RSA. Guerre aux pauvres et paix sociale. Alors Caroline, elle est à la fois éducatrice spécialisée et formatrice en école d'éduc et aussi depuis très longtemps au RSA, donc elle a l'expérience des deux côtés et elle vient raconter comment on est passé en fait d'un contrat de solidarité, c'est-à-dire dans une société on prend en charge les gens qui n'ont rien parce que c'est normal, à un contrat avec des conditions de plus en plus, et voilà comment on est. Elle est, c'est une conf... là-dessus. Mercredi, il y aura deux confs, il y en a une l'après-midi. C'est Lise qui viendra nous parler de c'est quoi être une fille dans l'espace public et pourquoi ça a toujours l'air vachement mieux quand on est qu'entre mecs et comment en tant que fille, t'essayes d'aller dans les espaces où t'es pas forcément autorisée à l'être, justement parce que t'es assignée nana. Et après, elle propose un atelier qui s'appelle le jeu du soi, qui est ouvert pour les gens de 12 à 112 ans, en fait. Et pour parler un petit peu de ces questions-là, échanger, enfin voilà, ce que nous on appelle des racontoirs en conf. Enfin, gesticuler, c'est-à-dire partager des petites anecdotes sur nos vécus pour construire du sens collectivement. Je pense que ça va être très très chouette.
C'est quelque chose qu'on retrouve après toutes les conférences, un dialogue
Pas forcément. En fait, les gesticulantes, ils prennent la parole... ils ont la parole de manière autoritaire, je vais dire, pendant 1h30, 2h sur scène. Ils viennent délivrer un savoir subjectif, mais qu'ils assument complètement d'être subjectif. C'est-à-dire qu'un savoir académique, il va être aussi subjectif, mais on ne va jamais le dire. On va considérer que c'est de la neutralité. Nous, quand on arrive sur une scène, on dit aux gens tout de suite qu'on est situé. On parle comme ça parce qu'on vient de telle classe sociale, parce qu'on est de tel genre, parce qu'on est de telle race. Race au sens sociologique et pas biologique, bien entendu. On annonce ça tout de suite. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on a pris la parole, on a dit ce qu'on avait à dire. Il n'y a pas forcément besoin d'un débat derrière. Alors les gens, souvent, ils viennent échanger parce que ça résonne, ça renvoie des choses qui les concernent eux aussi. Mais on ne va pas continuer à lancer le débat. Ou alors c'est dans un cadre prévu pour ça, avec une thématique, parce que c'est un syndicat qui nous a fait venir et qui veut bosser sur telle thématique et ceux qui gèrent les échanges et tout ça. Par contre, des fois... pas toutes les conférences, mais quelques-unes peuvent proposer derrière des ateliers pour que les personnes qui étaient à la conf ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir vu la conf, mais c'est quand même mieux, mais puissent venir expérimenter aussi de l'éducation populaire. En fait, l'éducation populaire, c'est s'éduquer ensemble, c'est construire du savoir collectif, du savoir politique collectif. C'est pas on éduque les autres, quoi. C'est... voilà. Mais... ça te va?
Oui, ça me va très bien. Du coup, ça, c'était mercredi à 15h.
Ouais, l'atelier, il est en suivant à 16h30. Et là, c'est vraiment une conf qui est ouverte à un public aussi un peu plus jeune. C'est vrai que souvent, on peut venir à des confs gesticuler avec des enfants, hein, c'est pas un souci, hein, parce que souvent, ils s'ennuient. Enfin, moi, ma fille, elle en fait plein. Et souvent, elle s'ennuie parce qu'elle en a marre d'entendre parler politique tout le temps. Mais c'est pas choquant, je veux dire, il n'y a pas de souci. Par contre, celle-là, elle est vraiment axée sur du vécu adolescent et tout ça à l'école. Donc, je pense que ça peut vraiment résonner avec des ados, des jeunes adultes. Et
C'est pour ça qu'elle a été mise à cette heure-ci, ouais. Pour permettre la sortie scolaire, sortie d'école.
Ouais, non, c'est les vacances, là.
C'est les vacances, c'est je ne suis vacances. Pas au courant des vacances.
Ouais. C'est les vacances, mais c'est surtout que je me suis bêtement dit que le mercredi, c'était un peu le jour des enfants, que les parents ne travaillaient pas forcément ce jour-là, que donc ils étaient dispo pour les amener. Bon, peut-être c'est des bêtises, hein, mais voilà, on s'est dit que ça collait là. Voilà. Et le soir, on a Clem qui vient... Alors elle est sage-femme, elle nous arrive de Belgique. Et elle fait une conférence sur les violences gynécologiques et obstétricales. Voilà. Bon, pareil, hein, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, même si celles qui subissent, c'est souvent les femmes. Mais je pense que c'est...
Dans ce milieu-là, c'est généralement les femmes.
Oui, mais bon, tu vois, les gynécologues sont principalement des hommes. Donc, ça peut aussi parler, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est important qu'on ait tous le même niveau d'information sur ces trucs-là. Jeudi soir, on aura Julia. Julia, elle est éducatrice, elle bosse avec, elle a bossé beaucoup avec des mineurs non accompagnés, donc c'est mineurs qui arrivent de pays hors Union européenne, sans adultes et qui arrivent en France et qui sont pris en charge par l'ASE, comme tout mineur qui doit être protégé en France normalement, étranger ou pas. Voilà, donc elle raconte son expérience et comment le système, comment la société oblige de plus en plus les éducateurs spécialisés à faire du tri et à jouer un rôle de flic, et comment c'est pas tout le temps, c'est pas compatible avec l'éthique et l'engagement des éducs. Et après, du coup, le vendredi matin, Julia, elle animera un atelier. Alors, qu'on a intitulé « Résoudre une situation insatisfaisante dans le travail social » parce que c'est basé sur les techniques de l'entraînement mental. Alors, il faut peut-être que je dise un petit peu ce que c'est l'entraînement mental si on a 3 minutes.
On a trois minutes.
En fait, l'entraînement mental, c'est un outil d'éducation populaire qui a été construit dans les maquis des Alpes au moment de la guerre, parce qu'en fait, pendant la guerre, il y a tout un tas d'intellectuels, de libraires, d'éditeurs et tout ça qui se sont retrouvés en zone libre vers Grenoble et qui ont monté une espèce d'école ouverte où tous les gens, quelle que soit leur classe sociale, leur niveau scolaire, pouvaient venir se former à l'imprimerie. Enfin voilà, ils avaient construit toute une école comme ça. Et ils se sont fait dénoncer par le régime de Vichy, donc ils ont pris le maquis. Et dans le maquis, il y avait plein de jeunes qui arrivaient et il fallait rapidement pouvoir les former pour pas qu'ils se fassent, enfin pour pouvoir lutter. Et ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc ils ont inventé une méthode pour pouvoir résoudre des situations complexes et passer à l'action. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils ont appelé l'entraînement mental, et c'est un outil qui a continué à perdurer au fil des années. Et du coup, les techniques d'entraînement mental, c'est prendre une problématique et la déplier dans tous les sens pour voir toutes les ramifications à la fois sociologiques, politiques, intimes, tout ce qui est contradictoire dedans. Un peu ce qu'on fait en conf. En conf, on a un outil qui s'appelle le cube et qui fonctionne de la même manière. En fait, les conférences gesticulées, elles sont un petit peu issues quand même de ces outils d'éducation populaire. Et l'idée, c'est de déplier ton cube et ta situation pour voir toutes les implications qu'elle a. Et puis après, arriver à trier... Pour avoir des pistes d'action concrètes. Ça, c'est l'entraînement mental. Et cet atelier-là, il est un petit peu basé sur ces techniques-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse collectivement résoudre des situations qui ne nous vont pas. Alors, on a mis dans le travail social, mais ce n'est pas ouvert qu'aux personnes qui bossent dans le social. Nous, on considère que le travail social, c'est aussi tes pratiques sociales, en fait, avec, quand tu es dans une asso, dans un collectif. Donc, c'est ouvert aussi à plein de gens.
Et les thèmes et les sujets qui seront abordés, ils ont déjà été choisis?
Non,
ou ils
c'est les gens qui les apportent, en fait. Okay. Ouais, c'est vraiment des choses liées à ton vécu, quoi.
Voilà. Ensuite, du coup, le spectacle vendredi soir. Hein.
Et vendredi soir, la conf, c'est la conf d'Amélie Chamet. Alors, Amélie, elle est metteuse en scène. Et elle vient raconter... Comment la fonction du théâtre public, du théâtre subventionné, c'est uniquement de masquer le conflit social et de ne pas énoncer la lutte des classes par un système de financement et de subventionnement qui va favoriser une espèce d'élite du théâtre qui va correspondre à des envies d'une toute petite partie de la population. Et que c'est pour ça qu'en fait, au théâtre, il y a toujours les mêmes gens, il n'y a pas de mixité sociale. On veut faire de la démocratisation dans les quartiers et dire aux gens qu'il faut qu'ils aillent au théâtre parce que c'est comme ça qu'ils vont se cultiver et s'élever. Mais enfin voilà, c'est toute cette thématique-là de à quoi sert la culture. Enfin, ce qu'on nomme la culture, qui est une culture, qui est la culture bourgeoise, la petite bourgeoisie intellectuelle, et pas alors qu'il y a plein de formes de culture en France. Il y a des cultures populaires, il y a des cultures paysannes, il y a des cultures... Enfin, voilà.
Ça me fait un peu penser au film Yannick, qui est sorti il n'y a pas longtemps, le dernier film de Quentin Dupieux.
Ouais. Voilà.
En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Je me demandais, il y a pas mal d'ateliers du coup dans tout ça, plus un atelier que vous proposez à la suite les 13 et 14. Il reste de la place dans tous ces ateliers?
Non, il n'y a plus de place. On a 8 stagiaires, on est hyper contents. Alors, du coup, on est 2 à former. Il y a Arnaud Van Balberg qui est un gesticulant aussi, qui a une conf sur l'écologie. C'est la deuxième année qu'on propose ça. C'est une initiation à la conférence gesticulée. Là, c'est vraiment une formation, c'est 2 jours. De travail assez intense. On est hyper contents parce qu'on a proposé ça hyper tard là. Enfin, je sais pas, on a dû proposer ça un mois et demi avant le festival. On s'est dit il y aura personne. Et il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel. Des gens qui, justement, connaissaient pas forcément le format, ont vu des confs l'année dernière, ont participé des fois à des ateliers de désintoxication du langage, parce qu'on fait ça aussi, mais là, on le fait pas. Mais... Et qui se sont dit, waouh, en fait, c'est super chouette comme outil, et qui ont accepté de... Enfin, qui ont eu envie de venir. Des gens d'ici, des gens qu'on connaît moins, et ça nous donne envie de réitérer l'expérience un peu plus souvent, parce qu'on se rend compte qu'en fait... Il y a de la demande, quoi.
Et les ateliers en journée liés au spectacle, ceux-là, ils sont toujours...
C'est ouvert à tous et prix libre.
Ok.
Voilà.
Et d'ailleurs, les spectacles aussi sont à prix libre, ouais. C'est-à-dire il y a un prix recommandé au prix libre. C'est toujours la grande question.
Ouais, alors le prix libre, c'est pas la gratuité, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, parce que les gesticulantes, elles viennent toutes de manière bénévole. C'est un acte militant, hein, politique. Par contre, l'idée, c'est pas qu'elles perdent des sous. Le prix libre, c'est comme on peut et comme on veut. Après, voilà, je pense qu'on est tous capables d'évaluer ce qu'on peut mettre dans un chapeau. Moi, je dirais 5 euros, c'est pas mal pour une base. Après, il y a des gens qui peuvent pas mettre 5 euros, c'est pas grave. On fait un chapeau collectif, de toute façon. C'est-à-dire qu'on ramasse les sous, puis à la fin de la semaine, elles partagent. Et l'idée, c'est que ça paye au moins les frais de déplacement. Voilà.
Ce joli petit programme, où est-ce que les gens peuvent le retrouver dans la semaine ?
Eh bien écoute, j'en ai quelques-uns, et puis il y en a un peu dans les commerces, il y en a un peu, où c'est qu'il y en a ? Il y en a dans les assos, il y en a un peu à l'encrier. Et sinon, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a un site internet de l'atelier, waouh, qui s'appelle atelier-populaire.fr, et dessus, il y a toutes les infos, toute la programmation, voilà, toutes nos... Il y a plein d'infos dessus. Là, j'ai fait plusieurs passages. Il y en a à la Jeunette, dans la grande salle, où c'est qu'il y en a. J'en ai mis un peu partout où je pouvais. Il y en a à France Service, à la maison France Service, dans toutes les structures où les gens sont susceptibles de passer, en fait, et il y a à la bibliothèque, enfin voilà, dans les commerces aussi, enfin voilà.
Parfait. En tout cas, ce festival, ça a lieu du 8 au 12 avril, donc ça commence ce soir, lundi soir, avec la première conférence, et jusqu'à vendredi, il y en a 6 en tout, je remettrai toutes les informations en ligne.
Ouais.
Floriane, tu m'as proposé une musique, du coup, entre deux, dans le reportage, c'est L'Arbre du Pendu, de issu de Hunger Games. Pourquoi cette musique ?
Oh, parce que c'est une de mes copines... Katniss Everdeen, et que voilà, ça fait partie d'une des petites surprises de la conférence.
Une petite copine virtuelle, hein, on est d'accord. Parce que les gens après vont croire qu'il y a plein de stars américaines.
Avec Ellen Ripley et Katniss Everdeen. Non, moi je veux bien maintenir ce...
Cette ambiguïté.
Non, mais il n'y a pas de guest star, quoi.
Bon, en tout cas, on s'écoute ça et on se retrouve très vite pour le reportage après.
Are you coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight night in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they
Jeudi 21 mars, dans le lycée hôtelier de Saint-Chély-d'Apché, France Travail, anciennement Pôle emploi, a organisé un concours de cuisine. Bizarre pour un organisme voulant le retour à l'emploi de la population, vous me direz ? Bah pas tant que ça. En effet, suite à de gros manques de personnel dans les cuisines en France, un nouveau programme a été mis en place dans chaque département de l'Occitanie. Une responsable de Pôle emploi nous parle de cette nouvelle méthode.
Vous savez qu'à France Travail, pardon, on a des offres d'emploi, puis on a des demandeurs d'emploi que l'on enregistre sur des métiers. Et là, c'est sur un intérêt, une passion, une envie, quelque chose qu'on fait sur son temps libre, en fait, et non pas forcément le métier d'où l'on vient, et où, du coup, on est inscrit pour retrouver le plus rapidement un travail. Donc, pour nous, même si l'idée est simple, c'est pas forcément évident d'aller chercher des talents, finalement, et des compétences annexes. Et c'est ce que les équipes de France Travail Lozère ont fait. Donc, ils ont contacté des demandeurs d'emploi avec un intérêt pour la cuisine, mais non pas des professionnels de la cuisine, puisque le plus souvent, ils sont déjà en emploi. Donc, on cherche des personnes avec cet intérêt-là et cette passion annexe sur laquelle, normalement, on ne va pas dans notre champ, nous, professionnels.
En gros, Pôle emploi envoie un mail à tous ses bénéficiaires et leur en communique aussi dans leurs entretiens. Le concours n'est pas une fin en soi, une formation pour les métiers de la cuisine est ensuite proposée aux participants. Pour ce premier essai en Lozère, France Travail a réuni 10 demandeurs d'emploi pour participer au concours. Il semblerait qu'ils étaient plus nombreux lors des réunions d'information, mais le mot concours fait objectivement fuir les gens. Il faut rappeler que lorsqu'on est en recherche d'emploi depuis un moment, surtout dans un territoire comme la Lozère, ça peut induire un isolement et des détresses mentales avec des gros manques de confiance en soi. Alors demander à ces personnes de participer à une compétition n'est peut-être pas la meilleure façon de les motiver à revenir sur ce que l'on nomme le marché de l'emploi.
Très rapidement, il y a des personnes, le mot concours, très clairement, peut faire peur. Hein. On a eu beaucoup de candidats qui nous ont dit oh, « Moi, un concours, qu'on me regarde, cuisiner, etc., ça me pose problème. » Donc, il est clair qu'on en a perdu un petit peu grâce à ce mot ou à cause de ce mot, je ne sais pas comment on peut dire.
À savoir que la participation au concours était obligatoire pour accéder à la formation qui suivait.
Et du coup, voilà. La participation au concours était obligatoire pour participer à la formation derrière.
Oui. Oui, ça oui. Après, si on a des gens
qui
restent des places, voilà, si on a des gens pour qui ça fait une vraie différence, vous imaginez bien aussi qu'on ne va pas leur dire « Ah ben non, vous n'êtes pas venu, donc on ne vous le propose pas ». On ne veut pas perdre d'opportunités pour personne. Mais normalement, oui, c'est l'idée. En tout cas, c'est une place pour tous les gens, en tout cas, qui se seront donné le mal de venir ici et de passer cette épreuve.
La formation, quant à elle, paraît très sérieuse. Elle se déroule en alternance 140 heures en centre, 70 heures d'entreprise, avec des acteurs du secteur qui se sont engagés à accueillir les personnes dans leur établissement pour la formation. Et ça, pour chaque participant au concours qu'il souhaite.
Les trois premières personnes seront gratifiées d'une reconnaissance, mais tout le monde à vocation, à pouvoir continuer sur sa formation, avoir une alternance et trouver un emploi le plus souvent durable dans la restauration.
La problématique soulevée par Pôle emploi dans leur communiqué de presse pour l'événement était un gros manque de personnel à l'année dans le secteur de l'hôtellerie. Mais quand on pose la question au chef et au responsable de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, présent comme jury au concours, le problème diffère un peu. Sur le territoire de la Lozère, par exemple, c'est plutôt un manque de saisonniers que l'on a.
Et c'est là notre difficulté à l'heure actuelle, c'est justement de pouvoir tout ça en faisant venir des gens d'ailleurs. L'inconvénient, c'est que là encore, on bute sur le problème du logement. Enfin, c'est un système qui devient très, très, très compliqué pour nous.
Un problème de saisonniers, de logement pour ces saisonniers, mais pas que.
Un problème de formation, mais d'information de notre métier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes, ou moins jeunes, hein, qui se lancent dans notre métier, qui font la formation, mais qui n'ont pas connaissance du réel, du métier professionnel. Ça implique, alors c'est vraiment un métier, quand on parle de passionné, c'est vraiment un métier de passion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter ses heures, on est au travail quand les autres s'amusent, et après c'est très difficile à concilier avec une vie familiale, et c'est vrai qu'un jeune qui passe un CAP, un BEP, quand il arrive à 18, 19 ans, qu'il rencontre une copine qui n'est pas forcément du métier, il a tendance à arrêter le métier et ne jamais le reprendre, se rediriger vers une autre voie. Et pareil pour ceux qui... C'est-à-dire qu'au bout de 4-5 ans, il reste réellement un élève sur 10 qui continue le métier. Et ça, c'est notre vrai problème. La formation est bien faite, mais l'information de notre métier, la connaissance de notre métier est pas réelle. Enfin, il n'est pas en rapport avec la réalité de notre métier, quoi, en fait. Disons qu'aujourd'hui, la clientèle en réclame de plus en plus, il faut être très franc. Les gens veulent manger à 9h30 le soir, veulent arrivent à n'importe quelle heure, et aujourd'hui, c'est un coût pour l'entreprise. On est obligé de le répercuter sur les employés, entre guillemets, et c'est eux qui en pâtissent un petit peu, quoi. Donc, c'est vrai que la tendance des restaurants, c'est on fait à 20h30, surtout en Lozère, à 20h30, on ne prend plus de clients, quoi. Et la clientèle ne s'y retrouve pas par rapport à ça.
Pour pallier à ça, les chefs et directeurs d'établissement trouvent des solutions.
Nous, on ne fait plus la différence, par exemple, dans notre entreprise entre un week-end et la semaine. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui qui a besoin d'un week-end et qui le dit un petit peu à l'avance, on peut lui organiser son week-end sans difficulté. Après, voilà, comme on le disait, il y a le souci économique au bout. C'est que... Et ma foi, d'avoir augmenté les salaires, d'avoir apporté de la flexibilité auprès de notre personnel, et bien, a entraîné qu'on a préféré effectivement fermer peut-être un midi ou deux supplémentaires, là où on aurait accepté de faire juste 8-10 couverts et être présent et offrir un service à nos clients. Et bien, aujourd'hui, on préfère fermer et n'ouvrir qu'en période où on a une certitude de remplir notre restaurant.
Pour ce qui est des logements saisonniers, la responsable de Pôle emploi nous dit que le problème est en cours de résolution. C'est déjà une belle avancée.
Et aujourd'hui, du coup, France Travail est en train à créer une plateforme qui s'appelle Mes Aides et qui en fait répertorie, quand c'est possible bien sûr, des logements rendus disponibles avec l'aide de l'État et de la préfecture qui les repère, qui écrit au maire, qui dit voilà, vous êtes dans une commune touristique ou vous devez un certain pourcentage en fait de logements pour accueillir justement les saisonniers. Et dans la même démarche que celle d'ici où l'ensemble des partenaires se réunissent et disent bon bah allez, de notre poids on va essayer de peser et d'améliorer les choses, et ben là on est en train de développer cette plateforme qui sera liée aux offre d'emploi et qui permettra parfois de faire la différence avec une offre d'emploi associée à une possibilité de logement ou des offres d'emploi simplement comme on les connaît le plus souvent aujourd'hui. Voilà.
En espérant pour les saisonniers que les prix seront abordables, les logements décents et pas logés à 4 dans 20 mètres carrés. Dans tous les cas, leur appel d'offres a fonctionné. Comme ils le souhaitaient, les participants présents étaient motivés, l'ambiance n'était pas tant à la compétition mais plutôt aux défis techniques et à la curiosité du métier. Chaque participant avait un profil différent, certains sont dans le retour à l'emploi, d'autres dans la réorientation et d'autres encore tentent leur chance de poursuivre un rêve. Je vous laisse avec leur présentation. Spoiler, c'est Jérémy qui a gagné le concours.
Jean-Sébastien, tu viens d'où en Lozère ?
Je suis du côté de Grand-Rieu.
Et tu as quel âge ?
43 ans.
Qu'est-ce que tu espères de ce concours ?
Ben en fait, j'ai joué au jeu parce que je voulais essayer de gagner le concours, quoi. Ça n'a pas été facile. C'était pour m'orienter vers la restauration, ce qui n'est pas simple. Mais j'étais trop stressé et j'étais trop rapide, quoi. Mais bon, j'ai donné le meilleur de moi-même. La rapidité, bon, j'ai beaucoup de choses à apprendre en cuisine. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, bon, c'est vrai que bon, la présentation peut-être est... Bon, voilà, on verra.
Tu viens de quel métier à la base ?
Je travaillais pas à la base. J'ai fait les beaux-arts à l'époque, bon, il y a longtemps. Et sinon, je voulais me convertir dans la cuisine parce que ça me plaît. Et pour moi, ça serait un avenir, c'est une passion, quoi, pour moi. Voilà. Mais après, par la suite, j'aimerais bien. Mon frère, il voudrait m'engager en tant que traiteur. Enfin, me prendre dans sa. Dans son atelier pour faire un traiteur, quoi. Et par la suite, évoluer dedans. Okay. Mais j'ai aucune connaissance, j'ai aucune base, quoi. Je me suis lancé dedans comme ça. Voilà.
Et malgré le fait que tu aies fini peut-être un peu tôt pour le concours ton plat, tu penses que... est-ce que tu es content de ce que tu as fait ?
Alors non, pas du tout. Mais c'est vrai que malgré tout, ça m'a donné une expérience. Et c'est vrai que je suis quand même content, mais c'est vrai que ça m'a donné l'expérience, mais je suis entre les deux, quoi. J'aurais pu faire mieux, quoi. Voilà. C'est ça que je me dis, quoi.
Alors, je m'appelle Mielon Sylvie, moi j'ai un parcours plutôt dans tout ce qui est comptabilité, cabinet comptable, exercice comptable, paye. Et donc j'avais projet pour ouvrir un restaurant. Et donc je venais m'essayer à la chose, savoir un petit peu ce qu'on rencontrait comme difficulté, comment ça fonctionnait. Voilà, donc...
C'est quelque chose que vous aviez déjà fait par le passé ?
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est ma première expérience, très bonne. Je suis relativement contente.
Et là, aujourd'hui, vous êtes un peu sous pression avec le concours ?
Pas vraiment. Je suis plutôt à la tranquille. Parce que derrière, c'est juste pour tester, essayer. Mmh.
Ah. Et vous attendez quelque chose derrière, du coup, de la formation, de tout ça ?
Alors moi, c'est aussi un challenge compétitif, dans le sens où, de toute façon, dans le marché du travail, j'ai quasiment 60 ans, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça me motive, ça me tue, voilà, ça permet de... Voilà.
Mais je suis Gualdino de Couteau, je suis quelqu'un qui est à Pôle emploi pour invalidité. Ils nous ont proposé de faire des formations comme ça, c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas cuisinier de base, je suis maçon.
La cuisine t'intéresse quand même ?
Oui, c'est moi qui cuisine à la maison. Et j'aime ça, mais je peux pas faire mon métier maintenant que je suis en invalidité. Je pourrais pas faire mon métier parce que j'étais opéré du dos, j'étais maçon, j'ai fait 14 ans de faïence et après je suis venu en France et j'ai fait 30 ans de maçonnerie, 25 ans parce que ça fait 5 ans que je suis un arrêt d'accident de travail.
Et du coup, tu mets un peu d'espoir dans la cuisine ?
Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Moi-même.
Pour l'avenir dans la cuisine ?
J'ai des ambitions, mais j'ai un rêve. C'est avoir mon propre local en camion, en food truck. C'est ça.
Bonjour, je suis Jérémy. J'ai bientôt 30 ans.
Tu participes aujourd'hui au concours. Est-ce que tu attends quelque chose de ce concours ?
Oui, en fait, j'ai déjà travaillé un petit peu dans une cuisine. Ça m'a beaucoup plu, sauf que sans diplôme, sans formation, c'était très compliqué. Donc en fait, j'attends de pouvoir rentrer dans le monde de la cuisine petit à petit, donc là par la formation et puis peut-être après plus tard par une école. Voilà.
Le plat qui était demandé aujourd'hui, en fait, c'est pas un plat qui a été demandé, vous avez eu des ingrédients et vous devez faire avec.
Exactement, en plus on a eu des petites modifications de dernière minute. Donc voilà, il y avait de l'ail, il y avait de l'échalote, du poulet, des pommes de terre, des carottes, des tomates, des concombres, etc. Et en fait avec ça il a fallu composer notre plat à nous en deux assiettes.
Et ton plat du coup ça...
Mon plat, il y a un écrasé de pommes de terre, donc avec de l'ail. J'ai fait de l'ail confit avec un poulet juste rôti, un petit bouillon de légumes par-dessus, des petites carottes crues et cuites pour les textures, un petit pain de mie toasté, voilà, quelque chose d'assez simple, mais j'essayais de maîtriser tout ce que j'ai fait.
Il y a eu des difficultés pour toi ?
Ouais, la difficulté, c'est les gants, la tenue. Parce que les gants, au dernier moment, j'ai fait des œufs mollets, j'ai essayé de les écailler avec les gants, ça s'est accroché, je les ai cassés, enfin, ça a été assez folklore sur les derniers instants, donc j'ai décidé de pas les mettre, voilà.
Ça a une importance pour toi de remporter ce concours, si tu le remportes ?
Alors, remporter, non, pas forcément remporter, parce que le but, c'est pas d'être le premier, c'est surtout de montrer de quoi je suis capable, en fait, et après, poursuivre sur une formation pour pouvoir m'améliorer.
Et du coup, tu es plutôt content qu'il y ait eu ce concours, ou c'est plus la formation qui t'intéresse aussi ? Qu'est-ce que tu penses d'avoir organisé un concours ?
C'est très bien. Alors, pour le coup, c'est la formation qui m'intéressait, mais c'est vrai que le concours, ça a été un appel, ça a été la partie un peu ludique, un peu sympa du truc, quoi. Voilà, ça donne un petit challenge, ça fait réfléchir, c'est toujours sympa. Ce qui m'a poussé, c'est que ça, j'aime beaucoup la cuisine en fait, à la base, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai eu une toute petite expérience dans un restaurant et ça m'a poussé en fait à entreprendre une carrière dans la cuisine. Et pour moi en fait, c'était un peu un tremplin, c'est un bon début en fait pour mettre un pied dans ce milieu-là. Donc voilà.
Vous avez suivi la formation que vous avez prévue
ensuite ? Oui, bien sûr. Et puis même, je pense même à embrayer juste après sur un CAP ou sur quelque chose d'un peu plus poussé. Pour intégrer, si possible, une belle maison.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine ?
Tout dans la cuisine, c'est l'émotion qu'on peut faire passer dans un plat. On peut tout faire dans la cuisine. Et puis j'ai un gros côté créatif que j'ai besoin de nourrir. Donc c'est vrai que dans la cuisine, on peut vraiment se lâcher. On peut partir sur ce qu'on veut. Donc voilà.
Qui c'est vos inspirations ?
Mes inspirations. Mes inspirations, ma grand-mère, beaucoup. Je cuisinais beaucoup avec elle. Après, les grands chefs, Top Chef par exemple, les émissions comme ça, c'est beaucoup d'inspiration. Et je trouve aussi pas mal d'inspiration sur Instagram. Donc on voit quelques chefs qui émergent sur les réseaux sociaux, et donc c'est vrai que c'est une source d'inspiration super.
Qu'est-ce qui a fait la différence dans votre plat, selon vous ?
J'en ai aucune idée. Ce qui a fait la différence, peut-être un peu plus d'expérience, peut-être. Le fait d'avoir fait quelques mois en cuisine, peut-être ça m'a donné un peu d'expérience. Après, honnêtement, je vois pas trop.
La matinale de Bartache, touche à sa fin. Nous avions reçu en première partie Stéphanie Rieux de l'Atelier Populaire et Floriane Durin, gesticulante et actrice. Je me suis trompé dans son nom plus tôt et j'en suis extrêmement désolé. Dans tous les cas, vous pouvez les retrouver ce soir à l'Encrier pour la première gesticulation qui s'appelle « Ces choses-là, on n'en parle pas, on oublie » de Floriane Durin du coup. Et moi je vous laisse avec les Fatal Picard, le combat ordinaire. Restez sur Bartas, on n'y est pas trop mal.
Par jour, vissé à ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine. La casquette de travers, j'avais la classe ouvrière. C'était toute ma vie, mon droit à la misère. Jusqu'à cette lettre qui dit encore merci. C'est ça au RMI, dans un faubourg de Varsovie. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux. Mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieilles hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Serait fier de moi, lui qui était communiste, comme on porte une croix. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieilles hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire. Palala, papapapa, palala, papapapa, palala. je sais planter des clous. Moi je sais rester debout. Moi je sais souder à l'arc. Et moi je n'ai jamais le trac. Et moi je sais la peur du vide. Moi je n'ai pas pris une ride. Moi je sais toucher le fond. Et j'ai du charbon sur mon front. Et moi je sais lever le poing. Moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain. Je sais toujours d'où je viens. Et moi j'ai le sens du combat. Moi j'ai des cales sous mes doigts. Moi j'ai toujours mes mains d'or. Moi je voudrais vivre encore. Et moi j'ai plus de 50 piges. Moi je n'ai jamais le vertige. Moi je sais rester de glace devant le temps qui m'efface. Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Palala, papapapa, palala, papapapa, palala, papapapa, palala.